les manger. Comme il y avait du monde à la caisse, je me suis dit que je payerais plus tard, mais j'ai oublié de le faire le soir même, en clôturant la caisse. Et donc derrière, eh bien, il a été licencié. On va voir s'il pourra obtenir un gain de cause au prud'homme. J'aurais dû payer sur le moment, mais ça ne méritait pas licenciement, pense Ludovic. Est-ce que l'action est trop sévère, trop dure?
Le préjudice total est de combien?
5,48 €.
Ah oui, oh là là.
Alors attendez.
Quelle gravité!
Est-ce que des mini-saucisses, c'est la même chose que des saucisses cocktail? C'est quoi des mini-saucisses?
Non, tu sais, les mini-saucisses.
Les mini-saucisses, je pense que c'est des mini-saucisses.
Non, mais arrêtez de faire honnête dans cette histoire.
Le directeur régional d'action, monsieur Magbrook Nekkouf, a été interviewé par le Parisien et il dit que Ludovic a un dossier assez épais. Oui. Et donc, il sait très bien que ce n'est pas uniquement ça.
Et alors, on le croit pas puisque, alors, c'est facile. Le monsieur se défend, le directeur du magasin, en disant « Monsieur Ludovic a un dossier assez épais ». D'accord, on aimerait bien savoir ce que c'est ce dossier épais, première chose. Deuxième chose, dans la lettre de licenciement, il est fait état que de ce vol de mini-saucisses. D'accord, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que on n'a pas retenu la bonne foi de l'employé qui était là depuis 8 ans et qui a dit « j'ai tout simplement pas payé au moment où ça aurait dû l'être ». Et la meilleure des choses aurait été à la direction de dire « écoutez, vous pouvez régulariser demain matin en caisse ». Point. Fin de l'histoire. Est-ce que c'est 54 ans, licencié, travaille là-bas depuis 8 ans pour 5,48 €. C'est quel degré de foutage de gueule quand on sait le pognon que ces gens se mettent dans les poches?
Mais bien sûr, est-ce que ça c'est une faute grave, lourde, qui justifierait, si il a un dossier comme dit le directeur,
qui déballe,
il faut que dans la lettre pour les motifs de licenciement apparaisse le reste. Je ne sais pas qui n'a pas fait ses tâches, qui l'a fait.
Non mais Frédéric, tu remarqueras, si ce dossier est aussi lourd qu'ils le prétendent, pourquoi il n'y a pas eu de licenciement pour ces dossiers qui sembleraient bien plus lourd que ce vol
précédent.
Voilà.
Bien sûr. Donc là, on a l'impression que on essaie de trouver
c'est
un prétexte.
C'est la saucisse qui a fait déborder le vase ou c'est la saucisse qui a mis le feu aux poudres?
C'est vrai. Non, moi, je pense que c'est la moutarde. Une seule raison est invoquée dans la lettre.
Ce qui est quand même.
Le gars, il a quand même becqueté à l'œil.
Oui.
Becqueté à l'œil, des mini-saucisses.
De bonne foi qu'il pensait qu'il voulait payer plus tard.
Bon, voilà.
Il a oublié que la caisse a été fermée.
J'ai pris entrée, plat, dessert. J'ai aussi pris une petite bouteille de champagne.
Non, il a pas.
Je
pense que
tu n'as
jamais été chez Action parce qu'il n'y a pas beaucoup de champagne.
Chez Action, ça sent le champomy.
Il a pris une canette, un paquet de gâteaux et des mini-saucisses.
Oui, enfin bon, voilà, on peut dire que même
ça fait entrée, plat, dessert. Ah non, il n'y a pas le dessert. Il y a le dessert, il a fait.
Est-ce que ça vaut licenciement?
Moi déjà, j'ai toujours pensé. Tu vois, ça se fait dans d'autres pays que, en fait, par exemple, les enseignes de grande distribution devraient faire des prix, voire des dons à leurs salariés en nature.
Je pense que
ça serait totalement normal. Mmh. Quand tu vois ce que gagne une caissière de supermarché, quand tu vois la difficulté même physique, les troubles musculo-squelettiques et tout, et quand tu vois, comme le disait Zora, l'argent que se font ces grands groupes, ils pourraient très bien, en plus du salaire, faire des dons en nature ou alors permettre des tarifs réduits pour leurs salariés. Ça paraîtrait déjà totalement normal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'un jour, il faudra quand même faire de manière générale le procès de la grande distribution dans les difficultés économiques de la France.
Donc allez-y, Jean-Loup Bonamy est en train de vous donner un blanc-seing. Tant que vous n'avez pas... vous n'avez pas de cadeaux en nature ou de bons, volez.
Non mais tu crois,
servez-vous.
Tu crois que je vais
vu que ces enseignes se gavent, allez-y, servez-vous.
Sur les
servez-vous dans les rayons. Faites rentrer plat, dessert.
Il
tout
a
à
pas
l'heure,
volé.
Il dénonçait la décadence. Mais Jean-Loup Bonamy,
la promesse
aux grandes capitales, aux méchantes enseignes de grande distribution, vous dit c'est open bar, le buffet est ouvert.
Alain Marchal, toujours du côté des puissants et des riches.
C'est le
du côté de l'exemple.
Non, il a Alain vient de déclarer que Ludovic est un voleur.
Non. Si. Sur le fond, comment ça s'appelle?
Non, mais pour 5,48 €,
il n'aurait pas rien volé. Là, tu te mets du côté de la direction, puisque Ludovic dit qu'il n'avait pas volé.
Non,
qu'il voulait payer, qu'il a oublié.
Dans ce cas-là, on aurait pu lui demander simplement de régulariser et de payer le lendemain.
Voilà.
On lui dit, au fait, Ludo, t'as pas payé ça, ça fait 5,48 €. Tu peux nous payer ça demain. Et puis voilà, c'était réglé.
Allez-y.
C'était réglé.
Voilà.
C'était plus simple que de passer.
Ou alors, on aurait dû le donner, lui dire, écoute, c'est cadeau. Vu les grands profits que nous faisons, 5,48 €. Et demain, tu peux recommencer, tu peux te resservir 5,40€.
Tu peux nous saucissonner la caisse. D'ailleurs, si le directeur a un chouchou, une chouchoute dans son équipe, qui prend un petit paquet de gâteaux ou un yaourt, il ne lui dira pas, ça fera 2€.
Non, mais les profits d'une boîte ne justifient pas qu'on vole, parce que dans ce cas-là,
c'est la meilleure part. Non, mais ça, on est d'accord.
N'importe quoi. En revanche,
j'ai dit qu'il devrait légalement faire sans qu'il y ait des vols, que ça devrait être une démarche de l'employeur de faire des dons en nature aux employés. Légaux.
Tu t'en sais rien, tu connais pas la politique sociale.
Je sais que c'est pas le cas.
Mais après, peut-être qu'ils sont un peu durs parce que
c'est tout moche.
Licenciement,
moi ça ne vaut pas licenciement. 5,48€, ils le payent le lendemain et on en finit.
Dans les misérables.
C'est aller traquer un salarié, se lancer là-dedans.
Est-ce que c'est pas symptomatique d'une façon de manager aujourd'hui, un peu bête et méchante.
Mais je pense que c'est malheureusement peut-être un symptôme et on a un gros problème en France sur le management de manière générale. Je veux dire, pas simplement sur la question d'action et les 5,48. Le management à la française pose problème et même aussi est très largement lié parfois à notre manque de productivité. Et c'est un management vertical, problématique, qui est assez autoritaire et un peu partout on le dénonce. Donc c'est pas simplement que dans la grande distribution.
Oui. On a parlé de la dame pipi qui s'est fait virer par la société néerlandaise qui gère toutes les toilettes des gares de France. On a sous-traité ça à une société néerlandaise. Elle avait pris une pièce pensant que c'était un pourboire qu'elle avait le droit de le faire. Or, les pourboires sont interdits. Elle s'est fait aussi pareil.
Mais c'est n'importe quoi. C'est du délire. Il y a une violence qui s'abat sur les salariés que je trouve assez idiote. Alors peut-être qu'en plus ils sont encouragés, comme maintenant ils savent qu'il y a la bérémisation au prud'homme et qu'on peut plus aller à un certain point. Ils se disent on va se faire plaisir.
Admettons, partons du principe que effectivement qu'on n'a pas tous les éléments, mais qu'il est bonne foi. Mais je me souviens de cette interview il y a quelques mois de ça. C'était l'année dernière, de ce gérant de supermarché qui disait que, tu sais, l'un des comportements qu'on voit le plus en ce moment sont les gens qui, dans les rayons, ouvrent un paquet de chips.
Et qui mangent
ou prennent un paquet de gâteaux.
Les clients.
Et lui-même disait, c'était extraordinaire. Il dit,
si on paye après, ça va.
Mais non, tu le payes pas parce que justement, ils disent, ils le bouffent.
Ah oui,
dans mon oreillette, on me dit, je l'ai déjà fait. Tu vois, voilà. Donc, c'est ce comportement de, on a liquidé. Les mini-paquets. Tu sais, il y a beaucoup de mini-paquets. Donc, le temps qu'on fait ses courses, en fait, on a mangé un mini-paquet de biscuits ou un sucré ou salé. Et quand les personnes sont interpellées, souvent, ce qu'on a répondu à ce gérant de supermarché, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Loup Bonamy. Vous allez pas me gonfler avec les profits que vous faites ou les salaires que vous payez.
Non, là, c'est du vol.
Un mini paquet
là,
de curly ou
là,
un mini paquet de gâteau.
Et surtout, non, mais tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que.
Tu l'as fait.
Non, je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Mais en fait, j'y pense à cause de Kassovitz. C'est quelque chose qu'on apprend aux gens dans les services secrets. Tu sais, quand ils sont en territoire étranger pour survivre, quand t'es grillé et tout, que t'as plus d'argent, en fait, on te dit, tu vas dans le supermarché, tu ouvres les paquets de chips et tu peux manger des chips dans le magasin. Et en fait, il y a moins de risques que de passer le portique avec le paquet de chips. Tu peux te faire choper, mais il y a moins de risques. Et donc, aux agents qui peuvent être dans la clandestinité, dans une situation très dégradée, on leur apprend ça. Voilà, c'était la minute bureau des légendes. Tu en parleras avec Mathieu Kassovitz lundi. Peut-être que Ludo est un agent secret qui s'est fait griller par le contre-espionnage d'Action.
Alors, dites-nous.
Le contre-espionnage.
Dites-nous franchement, est-ce que ça.
C'est ça.
Est-ce que ça vous est arrivé en travaillant dans un supermarché ? On va poser la question vérité au 32-16. Est-ce que ça vous est arrivé justement en étant dans un supermarché ?
Vous avez déjà ouvert des bocaux de cornichons, de mini-saucisses.
Le petit bocal, le petit mini-saucisse, je fais mon déjeuner.
Carrément manger de yaourt.
Je paye le soir ou je paye le lendemain. En tant qu'employé, de bonne foi.
Bien sûr.
On en discute au 32-16 avec vous. J'ai déjà Raphaël qui vient d'arriver, qui estime que la grande distribution. Il est plutôt sur la ligne Jean-Loup Bonamy. C'est-à-dire, la grande distribution devrait faire des dons aux employés au lieu de jeter à la poubelle. On a Paul qui est directeur de magasin. Il est directeur de quelle enseigne à votre avis ?
Action.
Bien joué. Et il nous a appelé et il va témoigner dans un instant.
Oula. Action. RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. C'est avec vous que l'on débat au 32-16. On parle de ce qui s'est passé dans ce magasin Action avec cet employé qui s'est fait virer pour 5,48€. Il a pris des mini saucissons. Il avait pris une.
Mini saucisses.
C'est sur un autre article.
Parce que peut-être que si ça aurait été saucisse, il n'aurait pas été licencié.
Raphaël est avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
Okay, comment vous réagissez à cette histoire, Raphaël, alors?
Alors, moi, je suis assez d'accord avec les intervenants, enfin, qu'un des intervenants en disant que la grande distribution, vu le profit qu'engendre quand même la grande distrib, et vu tout ce qu'ils jettent à la poubelle, ou voilà, tout ce qui soit disant.
C'est Jean-Loup Benhamy, le anticapitaliste, je le dénonce.
C'est Jean-Loup Benhamy. Alors, voilà, moi, je suis commercial.
Bon ami.
Je travaille avec la grande distribution, et je peux voir quand même tout ce qu'ils gaspillent aussi. Donc, tout ça, ça pourrait être quand même donné aux employés. Voilà. Sans problème. Voilà, il n'y a pas de.
Bah, peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est le cas.
Non, moi je vois que souvent ça balance ou ça donne. Alors ça donne au Resto du Cœur, ça c'est très bien aussi. Mais je pense que certains employés qui travaillent 35 heures et qui gagnent peanuts, ça serait bien peut-être aussi un peu de les aider dans des moments difficiles.
Vous dites, lui il était quand même responsable adjoint du magasin, le salarié en question. Bon. Okay.
Bah, à mon avis, ça se passait pas très bien avec le responsable.
Oui.
Déjà, ouais, oui, au départ.
Après, il faut voir, voilà, c'est ce que vous avez dit, ça se passait pas très bien avec le responsable, on va voir aussi déjà s'il n'a pas eu des casseroles, mais pour moi, je trouve ça logique, en fait, de pouvoir aider le personnel, et puis la grande distribution peut le faire.
Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le laisser. Moi, je pense que le licenciement, c'est trop dur, mais ils ne peuvent pas laisser un salarié voler son propre magasin.
Mais il n'avait pas l'intention.
Même si lui, il dit qu'il n'avait pas l'intention.
Voilà.
Alors attendez, Raphaël, restez avec nous parce que comme je vous le disais justement, on a Paul qui est directeur de magasin Action. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Alors, bonjour Paul.
Cette histoire, vous la connaissez, donc comment vous réagissez, vous dites-nous.
Bah, en fait, sur les 5,48€ ou les 5,50€ liés au problème, bah, je peux comprendre que ça peut paraître rien. Mais en fait, il faut vraiment se mettre à la place du directeur magasin et du directeur régional sur un magasin avec 30 employés. Si demain, en fait, je me retrouve dans mon magasin avec 30 employés et que tout le monde fait comme ça, tout le monde se sert et
il paye 2, 3,
4 jours, 5 jours après. Du coup, comment on fait? Comment ça se passe pour gérer, etc. Si on laisse passer là, ça veut dire que les prochaines fois qu'on va le laisser passer, on va créer un précédent.
En fait, donc vous ne croyez pas à la version de ce salarié pris, pensant, il voulait régler plus tard, il a oublié et donc c'était trop tard, la caisse elle était fermée.
Tout à fait, je crois à sa bonne foi, voilà, le but, voilà, chez Action on est quand même plutôt bienveillant, il faut savoir que les collaborateurs...
Alors pourquoi est-il menacé de licenciement alors?
Une réduction de 20%.
Ah oui, ils ont une réduction.
Lors des achats, et immédiat, moi j'ai été dans le groupe où en fait on paye, et ensuite on est remboursé sur le virement bancaire là, c'est 20% immédiat, déjà.
Donc il y a déjà un effort fait. Exactement. Par la direction vers les salariés.
Et pourquoi il est licencié alors?
Moi j'en sais pas plus, c'est pas du tout dans ma région.
Visiblement, il a un dossier un peu plus lourd.
A priori, c'est ce qu'il dit, je connais pas du tout le dossier, voilà, j'appelais juste pour vous donner un peu de contexte.
Mais est-ce que ça vous paraît excessif ou...
Moi personnellement ça me paraît excessif. Peut-être un avertissement ou quelque chose comme ça, histoire de marquer le coup.
Mais peut-être que c'est pas le premier avertissement.
Paul, très franchement, est-ce que ça arrive souvent, alors, d'avoir des employés qui servent comme ça et...
Non, franchement, ça fait 5 ans que je suis chez Action, que je suis directeur de magasin, et j'ai jamais eu de cas de figure. On a du vol comme dans n'importe quelle enseigne, mais de se servir, et non, ça, c'est, franchement, c'est la première fois que, en toute honnêteté, c'est vraiment la première fois que je vois ce type de
Et des clients qui se disent, tiens, je vais grignoter un petit paquet de biscuits ou un petit truc comme ça.
Ça c'est tous les jours. on se bat en magasin pour, avec toute bienveillance,
Alors justement,
comment vous réagissez
quand ça se passe, quand vous interpellez, comment vous dialoguez, dites-nous.
L'idéal, c'est pour pas créer de quiproquos et de situations un peu tendues, on dit, on vous emmène le paquet directement en caisse, comme ça, ça vous permet de régler, et au moins on évite tout problème.
Le et but, ça se passe bien?
Ah, on a une chance sur deux. Une chance sur deux, mais en général, quand on la porte plutôt de la manière plutôt tranquille, en disant, bah voilà, comme ça, on évite tout problème, on emmène ça en caisse et vous paierez plus tard.
Et
en général, ça passe. Sinon, bah, des fois, c'est un peu tendu, on se fait traiter de... Enfin, ils pensent qu'on les traite de voleurs, etc., etc. Mais bon,
tu sais, voilà, le type, il est là, il a la personne, elle a la main dans le paquet. Oui. Vous me traitez de voleur, vous dites que j'ai volé, mais enfin, c'est quand même hallucinant.
Ça arrive forcément, mais du coup, on leur dit directement, voilà, on évite tout problème, et puis bah, on met directement...
Non, mais on paye, et puis c'est réglé, quoi.
Ben, voilà, c'est ça, exactement. L'idée, c'est ça.
Merci Paul d'avoir été, été avec nous.
Olivier Truchot, rendez ce trombone à RMC.
Hein, voilà. Il faudrait déjà qu'on en ait des trombones.
Ah bah voilà. Alors si tu arrives à voler un trombone RMC, t'es un champion. Oui. Parce que je ne sais même pas s'il y a des trombones RMC.
Jean-Louis Bonamy est une des rares personnes encore en France à utiliser les trombones. À voler un trombone.
À utiliser un
homme de l'ancien temps.
Vous savez ce qu'il y a comme vol dans les entreprises? Il y a du vol de papier en général.
Les ramettes.
Les ramettes de papier.
Bah oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voler dans une entreprise ici à RMC?
Des trombones.
Oui, il y a pris du matériel qui vaut très cher, bien sûr.
On peut voler des chemises ou des costumes, par exemple.
Vous savez qu'on a des costumes et on a investi et on nous vole. Et donc, c'est sans doute des collègues qui volent des costumes, des vestes. Et c'est dingue. Moi, on m'a volé une veste. J'ai jamais retrouvé une veste.
Moi, une cravate.
Et donc, c'est forcément un collègue, parce que c'est
ça en dit long quand même.
Ça en dit long sur l'humanité.
Comme quoi, il n'y a pas de classe sociale.
Ça, tu la dénonces pas, Bonnard. Ouais,
exactement.
Mais vous savez que lors des réceptions officielles, la femme de Ceausescu était kleptomane, et la femme du dictateur roumain, et donc il fallait absolument cacher la vaisselle en argent quand on la recevait dans les palais en France, parce que hop, château de Versailles, elle repartait avec une cuillère en argent, etc., etc. Donc voilà, ça touche toutes les strates.
Est-ce qu'on a tout récupéré après
Je crois qu'on n'a pas tout récupéré.
Je te signale que il existe bon nombre de livres de nos confrères journalistes qui ont suivi le monde politique et qui racontent, peut-être moins maintenant, à une époque, des ministres qui partaient, qui
sans payer le gouvernement.
Qui utilisaient le ministère, si tu veux, pour dire bon ben écoutez, là ça me plaît pas mal, ce serait pas mal chez moi ou quoi que ce soit.
Bureau de la CRS.
D'ailleurs, il y a eu une très belle enquête sur tout ce mobilier qui a été dérobé. Patrimoine de la France qui a été dérobé et tout le patrimoine qui a été vendu et bradé
à la découpe,
à des gens dont on avait organisé l'achat. C'est absolument hallucinant, mais le vol de patrimoine par des gens, par des politiques et par des puissants et des gens qui étaient au pouvoir,
bien sûr,
c'est connu.
Thomas est avec nous, il est agent immobilier. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, cette histoire action qui fait débat dans les GG, vous avez entendu le patron de l'enseigne il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Thomas, alors?
Alors, je vais essayer d'être le plus clair. Hein. C'est la première fois que je passe à la radio.
Je vous fais confiance.
Donc, moi, je suis un ancien... J'ai changé mon prénom. Hein. J'ai changé mon prénom pour pas avoir de problème. Moi, je suis un ancien directeur régional d'une enseigne de discount qui n'existe plus. Qui était Leader Price, mais les techniques utilisées, le discours de l'ancien directeur, enfin du directeur d'action qui est passé juste avant, en fait c'est des discours qu'on utilisait nous quoi, c'est-à-dire vérifier sur les caméras que les commandes soient faites en temps et en heure. Moi je demandais à mes directeurs de magasin de vérifier le temps que les vérifier le timing que mettent les agents pour mettre en rayon les produits. Je demandais qu'on vérifie le temps que les responsables de rayon mettent à passer les commandes. Donc en fait, c'est des techniques qui sont connues. Même le directeur du magasin d'action qui est passé avant, hein, que je salue, connaît ces techniques. C'est des techniques qui sont connues, reconnues. On est dans du discount.
La technique, quoi. C'est-à-dire, je réglerai demain ou je réglerai en décalé, c'est ça? Et alors qu'en fait, on a grignoté aux frais de la princesse, quoi.
Non, c'était plutôt que lui était sur surveillance, le directeur.
Oui.
Peut-être qu'il coûtait un peu cher, peut-être qu'il était un peu grande gueule ou autre. Alors, il faut savoir que dans ce type de magasin, on n'aime pas les gens qui parlent beaucoup, on n'aime pas les gens qui rouspètent. Donc, du coup, il était certainement sous surveillance et on utilise le moindre prétexte, pour le
sortir.
C'est ça. C'est triste, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté cette profession. Moi, j'étais très jeune quand j'ai été directeur régional, j'avais 30 ans. J'ai commencé en rayon, j'ai été responsable de rayon, directeur de magasin, et après je suis monté. Et franchement, c'est technique, c'est moi en tout cas personnellement, c'est honteux de. J'ai licencié des personnes juste parce que soit elles étaient proches d'un syndicat, soit elles étaient proches d'un, responsable de rayon.
C'est très intéressant ça.
Ah oui, là c'est pas la saucisse cocktail, c'est la saucisse prétexte.
Oui c'est ça.
Là, voilà la saucisse qu'on va utiliser.
Mais ça c'est évident.
Pour régler d'autres comptes. On attend la petite faute et puis voilà là boum ça y est on a bouclé le dossier quoi.
Et si je peux me permettre, il avait 54 ans c'est ça. Oui. Donc, par rapport à ce type de magasin. Alors moi je connais pas la politique Action, je connais la politique discount. Ce type de magasin, on aime bien avoir des jeunes qui représentent un peu l'image des produits. Donc peut-être qu'à 54 ans, il a eu peut-être là c'est que moi qui parle. Hein. Il y a pas d'information. Il a peut-être eu des arrêts maladie. Ouais. Il a peut-être eu. Il est peut-être un petit peu moins rapide que les autres, directeurs des le directeur. Il avait quel âge le directeur d'Action qui est passé avant? Il était jeune, non?
Non mais il est pas dans la même enseigne.
Ouais,
hein.
C'est un autre.
Hein, voilà qui expliquait lui sa perception de l'affaire. Mais il n'est pas impliqué dans l'affaire qui nous concerne.
D'accord, ok.
Oui, bah
Votre raisonnement peut tenir, c'est une hypothèse.
Mais le management dont vous parlez, bah évidemment qu'il n'est pas, dit ouvertement, mais on sent bien quand on dit il avait un dossier, mais on ne parle pas de ce dossier, et puis on met sur la lettre de licenciement que les saucisses, donc il y a quand même un problème, quoi.
Donc au prud'homme, il va gagner. Hein. L'enseigne-là, au prud'homme, elle perd quasiment à chaque fois, et c'est surtout aussi malheureusement de notre faute, parce que là, vous voyez, le hasard fait que je suis sur un parking à côté d'un Action. Mais quand je vois les gens qu'il y a dedans, c'est aussi de notre faute d'aller dans ces magasins-là où on veut des prix pas chers. Et à côté de ça, on veut que le personnel soit bien traité, avec bien des bons salaires. Ouais. Donc c'est aussi de notre faute ce type de. Mais ça existe.
C'est une vraie réflexion.
Oui,
mais ça c'est toute la contradiction. C'est-à-dire qu'on veut des prix pas chers et en même temps on veut des prix de qualité. On veut que les gens qui les produisent soient bien payés. On a le même problème avec l'agriculture. On veut manger des tomates et des pommes de terre le moins cher possible. Et en même temps, on voudrait que l'agriculteur qui produit ces tomates et ces pommes de terre puisse vivre décemment.
Mais la grande distribution joue un rôle dans la crise économique du pays. Elle met une énorme pression sur les agriculteurs. Elle
se fournit à l'étranger. Le consommateur doit aussi réfléchir. Moi, j'aime bien qu'on tape toujours sa grande distribution, mais c'est facile.
Le consommateur
doit aussi se poser
les bonnes questions. Merci Thomas, c'est vous qui avez conclu les GG aujourd'hui. Merci Monsieur Thomas.
Bonne journée à tous.
Bonne journée à vous. Beaucoup. Vous voyez, c'est très bien passé. Il n'y a pas de quoi avoir la trouille.
RMC, les grandes gueules.
Passez un bon week-end, profitez bien de la fin du viaduc de mai. Et rendez-vous lundi 9h pour les GG pour les grandes gueules avec la coach de vie Joël Dagosséry, l'avocat Charles Consigny et le professeur de philosophie Jean-Loup Bonhomme.
RMC les grandes gueules, tous les jours 9h midi.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, ce soir, 19h-20h30. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, c'était ce matin sur RMC.
À la place du chien de Gabriel, là je me planquerai sous le canapé. Attention Volta, tu vas finir en brochette. Elle disait, je vais faire un kebab avec ton chien pour des menaces de coupure de budget. Alors maintenant que les coupures sont effectives, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que Gabriel Attal, il va recevoir une boîte avec le doigt d'un proche emballé dans du coton. Alors, de grandes institutions comme l'Opéra de Paris, la Comédie Française, une queue de chien exactement. Le Louvre aussi a vu son budget raboté de
Emmanuel Le Chip, il y a une fille
Alors, heureusement, de ceux qui ont été épargnés, qui n'ont pas de coupure de budget, il y a le CNC.
Oui.
C'est eux qui financent le cinéma français. Ah. Ouf, on va pouvoir continuer à ne pas aller voir des films français, mais sans mauvaise conscience. On pourra continuer à se demander, pour la soirée ciné, tu préfères ne pas aller voir un film avec Benjamin Biolay qui héberge un jeune migrant afghan sans papier, ou ne pas aller voir le documentaire de Christine Angot sur son inceste? On ne sait pas. Ouais, et le gars était caché à la télé. Alors, c'est pas le seul, hein. Gérard Miller aussi était caché sur les plateaux de France Télé pendant 25 ans, PPDA, tout ça. Si ça se trouve, le père Fouras, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, sous un masque de vieux. Ça fait 20 ans qu'il est caché à la télé, il fait tous les jeux. Il y a Nagui qui va le recevoir à N'oubliez pas les paroles. Et on est avec Xavier, Xavier qui va nous chanter Outé, papa, outé, outé, papa, outé. Moi, je serais d'ailleurs assez pour qu'on revisionne tous les vieux épisodes de Questions pour un champion.
Mais bien sûr.
Il y en a quelques-uns là-dedans qui ressemblaient pas mal à des tueurs en série. Mmh. Vous savez, les gars avec des grosses lunettes bizarres et 8 cheveux longs rabattus comme ça, où ils léchaient la main pour plaquer les cheveux sur un crâne chaud, avec des chemisettes trop grandes. Et les gars, ils s'y connaissaient beaucoup trop dans des domaines trop spécifiques. Alors, Julien, je vais choisir comme thème les dissolvants dans l'histoire contemporaine. Je trouve ça chelou. Il y a M6 qui relance le juste prix. D'ailleurs, il y en a un qui va se pointer. Les sacs poubelles, 3,26 €. Une pelle, 29,95 €. Une caravane insonorisée, 18 500 €. Faut qu'on revisionne tous les vieux épisodes des Amours. Il doit y en avoir un avec Michel Fourniret et Monique Olivier, ouais, présenté par Jean-Luc Reichmann. Et on est avec Michel et Monique. Monique, Michel, connaît-il top votre couleur préférée?
Le jaune.
La meilleure méthode pour faire disparaître un corps?
La chauve-vive.
Votre signe astrologique?
Capricorne.
Où est la petite Sophie?
Sous le cerisier du jardin.
Alors, le grillé était activement recherché et il passe à la télé. Les flics le recherchaient depuis 35 ans pour lui poser des questions. Et lui, il préférait répondre à des questions, mais du genre, quelle est la femelle du crapaud? Qui a chanté Coup de folie? Thierry Pastor. On va aller fouiller dans le jardin de Manu le Chip.
Ah, Manu,
c'est louche de savoir.
Manu, c'est louche.
C'est louche, c'est louche.
Arnaud, Marlène Schiappa va sortir un livre de littérature érotique à la Fifty Shades of Grey. Et l'héroïne sera une ministre.
Oui, bah oui, coïncidence. Alors vous vous souvenez de Fifty Shades of Grey? Fifty Shades of Grey, c'était un peu la démocratisation du sadomasochisme. Ah oui, j'aime souffrir et tout. Mais on sait qu'elle doit bien aimer ça. Pour se taper pendant 6 ans des réunions avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, faut aimer souffrir. Alors c'est pas la première personnalité politique à se lancer dans l'érotisme. On a eu Bruno Le Maire, on a eu Alain Juppé. Et comme c'est pas la première fois qu'un politique se lance là-dedans, on va faire un petit quiz. C'est un quiz.
Allez, les buzzers.
Ce livre érotique a-t-il été écrit par une personnalité politique? A gagné une nuit avec Lionel Jospin.
Alors, attention. Je suis pas sûr que je joue finalement. Moi j'y vais. Hein.
Top.
Ouais, y va.
C'est parti. La princesse et le président.
Oui.
Giscard. SOS Désir.
Non.
Oui, Harlem Désir.
Non.
Mais c'était pas érotique.
Mais c'est
un vrai livre.
C'est pas érotique.
Je vais te fouetter, petite catin, par Rachida Dati.
Mais c'est peut-être
en cours d'écriture.
Il va sortir.
Le premier sexe.
Ah, vrai.
Vrai,
par Éric Zemmour. Passion.
Oui.
Par Nicolas Sarkozy. Oui. 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois, par Édouard Balladur. Mais le livre a vraiment été écrit par une personnalité politique.
Ah.
Marlène Schiappa, évidemment.
Ah, c'est le...
2 Français sur 3.
Ah bah oui.
Oui,
oui.
C'est Giscard.
C'était érotique, ça? Non.
Plus ou moins. Pénélope Salope, par François Pignon.
Non,
ah bah il aurait pu. À tout cœur, un projet de plaisir, par Gilles de Robia.
Ah oui.
Non, c'est faux. C'était à tout cœur, un projet pour Amiens. C'était pas loin, mais c'était pas pareil. Une histoire sentimentale,
vrai,
par François Baron.
Bah oui.
C'est vrai. Emmanuel, par Brigitte.
Faux, mais c'est vrai.
En lisant l'avenir dans mes boules, par Michel Sapin.
Joker.
Je le veux, celui-là.
Ça m'étonne pas, tiens. Dès qu'il y a un économiste un peu coquin. Sexe, mensonge et banlieue chaude.
Oui, Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa, exactement.
Ah, ouais. Exceptionnel. Hein.
Prenez-moi, oh oui, prenez-moi, par Manuel Valls.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez C'est tous les jours Demanche en podcast.
Sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC, les week-ends de 9h30 à midi, les GG passent le relais aux grandes gueules du sport.
2h30 d'échanges, d'analyses, d'opinions avec une équipe de champions.
Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Cyril Marais et bien d'autres.
Autour de Jean-Christophe Drouet. Les grandes gueules du sport. Les samedis et dimanches, désormais 9h30 midi sur RMC. RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME ? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Je voulais d'abord vous remercier de votre participation hier à l'interview de Marine Le Pen, parce que vous êtes des centaines à nous avoir envoyé vos questions pour Marine Le Pen, vos questions, vos interpellations. Vous étiez très présents, et très présents évidemment pendant l'interview, même si j'aurais aimé pouvoir donner la parole à encore davantage d'entre vous. Mais merci, c'est grâce à vous aussi que l'exercice est réussi, et c'est la singularité d'RMC, vous donner la parole pleinement à nos côtés. Bon, ce matin, on va évidemment parler de tout autre chose, parce que ce soir, la France s'arrête. Plus d'école, pas de travail, deux jours fériés et un vendredi qui se retrouve un peu au milieu et où les Français n'iront pas tous travailler, il faut être honnête. Il y en a deux sur trois qui m'intéressent ce matin. C'est ceux qui, justement, sont aussi au travail pour accueillir ceux qui vont peut-être réussir à s'échapper un peu. Et vous nous le dites au 32-16, est-ce que vous partez ce soir ou demain en week-end ? Est-ce que vous avez les moyens aussi ? Et où est-ce que vous partez ? Et puis si vous êtes, comme je le disais, hôtelier, restaurateur, gérant de camping, de maison d'hôte, est-ce que vous faites le plein ? Est-ce que les Français, est-ce que les touristes sont au rendez-vous ? Et puis on va faire un peu de provoque, mais dans cette période de vache maigre pour l'économie, est-ce qu'on a les moyens de ne pas travailler pendant quasiment trois jours. Ça, Manu, je vais quand même vous poser la question. Ça va coûter combien, toute cette petite affaire ?
Ça ne coûte pas grand-chose, en fait.
Mais non, c'est très artificiel.
Mais non, qu'est-ce qui est vraiment perdu comme activité ? Il y a plein d'activités qui sont décalées. Mais si vous bossez dans un bureau, le dossier que vous ne traitez pas le jour férié, vous l'aurez traité la veille ou vous l'aurez traité le lendemain.
Oui.
Il y a plein d'usines maintenant qui tournent en permanence et qui ne ferment plus. Et puis, il y a des effets de vase communicant. Alors oui, c'est sûr que les théâtres, les cinémas, ce n'est pas terrible. Mais en bord de mer, ça va être l'activité. Les restaurateurs, par exemple, ceux qui sont dans les centres-villes, ils vont avoir moins de clients, mais ceux qui sont en bord de mer, ils vont avoir plus de clients. Donc, au niveau global, si vous voulez, ça n'a pas tant d'effet que ça.
Et ça s'équilibre, on est avec vous au 32-16. Il y a d'abord Rico qui nous appelle de l'Indre. Bonjour Rico.
Salut Apolline, comment allez-vous ?
Ben, ça va bien, vous ?
Alors, j'habite dans l'Indre, mais je travaille dans la Sarthe.
Oh là là, pays béni des dieux. Wow. Et alors,
Non, mais je pense que le Berry, c'est plutôt le pays béni.
C'est pas mal aussi. Ok, j'avoue, le Berry, c'est bien. Rico, dites-nous, vous travaillez justement dans un camping dans la Sarthe.
Oui, je travaille à Brulon, au camping Le Septentrion.
Oui.
Où on a commencé la saison, la mi-avril.
Bien.
Je travaille jusqu'à fin août là-bas.
Et malgré la pluie et tout ça, les gens sont là ?
Oui, parce que je vous rappelle que ce week-end, dans la Sarthe, il y a un gros événement. C'est le Grand Prix de France Moto.
Évidemment. On en a beaucoup parlé d'ailleurs sur l'antenne d'RMC. D'ailleurs, à ce sujet,
je voulais passer un gros coucou à tous mes potes bikers de la Fédération des Bikers de France.
On salue les bikers qui seront tous au rendez-vous ce week-end au camping de Brulon et sur le circuit des 24 heures. Rico, donc vous faites le plein là pour ce week-end ? En particulier, évidemment, avec cet événement-là, mais avec le pont, j'imagine qu'ils arrivent plus tôt, quoi.
Oui, et puis nous, on est sur une base de loisirs, il nous manque juste le beau temps pour vraiment être full.
Je crois qu'il arrive le beau temps. Je crois que votre week-end va être bon dans la Sarthe, Rico. Vous êtes saisonnier, donc, hein, puisque vous dites, je viens de prendre et je suis là jusqu'à fin septembre. Vous faites quoi le reste de l'année ?
Je travaille aussi en cuisine quand j'ai du boulot.
Voilà. Et vous êtes en cuisine au camping ?
Oui.
Et vous faites quel genre ? C'est plutôt snack ou vous faites où il y a une partie
alors,
un peu resto ?
Les propriétaires qui sont des amis étaient partis sur une idée de snack au départ, mais je pense qu'on va un petit peu améliorer ça parce que comme on est un peu dans la campagne, c'est un peu compliqué pour attirer les gens du coin que sur du snack.
Ouais.
Donc on va faire des plats du jour, des choses comme ça, des petits desserts sympas.
Très bien. Non, mais alors donc on sait pour Brulon, mais sauf que c'est plein peut-être ce week-end, non ?
Oui, ce week-end, on est complet, oui.
Et vous avez un peu de la perspective ? Est-ce que les patrons du camping, ils vous disent, voilà, ils ont de la perspective, ils sont à peu près satisfaits ou ils sont inquiets ?
Alors pour l'instant, ils ont zéro perspective pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils reprennent de cette année.
D'accord.
Et évidemment, on a des ambitions, c'est mieux faire que ceux d'avant.
Combien d'emplacements ?
Alors là, je peux pas vous dire.
Non, mais combien de personnes, quoi ? Vous savez combien de couverts vous devez préparer, quoi, en gros ?
Non, justement, on sait pas, ça dépend du temps. Nous, on peut monter, on peut faire 10 couverts, comme on peut faire 80 couverts.
Ah oui, donc il faut savoir s'adapter aussi.
Il faut inviter à Pau.
J'avoue qu'à Brulon, j'y passerai bien. Bon, je vais passer le week-end en Auvergne, mais cela dit, la prochaine fois que je suis dans la Sarthe, je passe vous saluer quand même, Rico.
Ça sera avec plaisir, Apolline, de vous accueillir là-bas.
Promis. Promis à Brulon. Vous embrassez tout le monde. Rico, restez avec nous. Il y a aussi Stéphane qui, lui, nous appelle du Val d'Oise. Bonjour, Stéphane.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Stéphane? Vous êtes chauffagiste? Vous allez bosser demain?
Bon, non, moi je suis dans le Cantal là en ce moment.
Ah oui, d'accord, vous êtes parti au vert là.
Bah oui, parce qu'on est contraire du monsieur qu'on a eu avant, chauffagiste, donc la saison, c'est plutôt le contraire, non?
Ouais, vous bossez particulièrement l'hiver. Vous l'avez fermé quand là, la boîte?
Le 1er mai.
Le 1er mai, et vous la rouvrez quand?
Lundi,
c'est ça, vous avez pris un gros 10 jours.
Ouais, ça faisait 8 mois qu'on était ouvert. Il fallait faire un choix avec les ponts. Quand on est dans la région parisienne, on sait que les gens y partent énormément. Et puis, faut laisser les gens aller faire les vacances et faire travailler les autres que chauffagiste en mois de mai, juin. C'est relativement calme. Donc.
Ah non, mais je vous comprends complètement, Stéphane. Vous avez des employés?
Oui, nous sommes trois. Ouais.
Et donc, ils sont contents aussi, s'être dit, on le sait à l'avance, on a ces 10 jours-là.
Voilà, même s'il n'a pas fait très très beau, mais bon.
Vous allez vous rattraper ce week-end dans le Cantal, je crois que c'est pas mal.
Oui, et puis comme dit Monsieur Le Chypre, c'est un vase communicant. Il y a des temps forts et des temps faibles. Il faut faire des choix. Des fois, c'était jamais évident de fermer une entreprise pendant quelques jours, mais bon, des fois, ça coûte plus cher de rester ouvert.
Oui, vous savez que de toute façon, vous avez le chiffre d'affaires en mai, il sera peut-être un peu moindre, mais vous rattraperez. On a bien compris, que c'était pas votre mois de l'année, quoi. Stéphane, restez avec nous. On est parti donc avec vous dans le Cantal et Romain nous emmène dans la Manche. Bonjour Romain.
Bonjour.
Boulanger, pâtissier à Saint-Pierre-l'Église.
C'est ça.
Et Romain, est-ce qu'il y a du monde qui arrive?
Ah oui, nous les week-ends, les longs week-ends comme ça, pour nous, c'est du bonheur.
C'est vrai. Ouais.
Ouais, ça nous amène beaucoup de clients et puis même les gens de la commune. Du coup, qui posent des longs week-ends aussi, on en profite.
J'imagine qu'ils sont davantage, alors là, pour le coup, sur la pâtisserie. Enfin, ils se font plaisir, quoi. Moi, je sens, l'appel du week-end, c'est aussi ça. Non, mais c'est vrai. Non, ça fait marrer Manu. Ça fait marrer Manu, mais ça fait partie du plaisir, de la détente, quoi.
Ouais, on se retrouve à faire des journées de dimanche, comme la plus grosse journée de la semaine, on en fait pendant 3 jours.
Après, vous avez des enfants ?
3 enfants.
3 enfants, ils vont être où ? Ils vont être dans l'arrière-boutique ?
Eh ben, la plus grande va être assise à côté de moi dans le labo, le plus petit dans son berceau, et celle du milieu, elle court un peu partout.
Elle a quel âge l'aînée?
Ah, l'aînée, elle vient de prendre 6 ans.
6 ans, 6 ans, elle va être. Ah oui, là, elle va jouer à la marchande, là.
Oui, c'est ça. Moi, elle suit déjà un petit peu, ça ne dérange pas, elle adore ça.
Mais ça, c'est du boulot, c'est-à-dire qu'on ne pense pas suffisamment à ça. Mais je veux dire, quand on tient la boutique et qu'on a en même temps les enfants dans les pattes parce que c'est le pont, c'est pas commode quand même,
Ah bah c'est une double journée, c'est double casquette, double journée, mais on a fait ça pour ça aussi, c'est de pouvoir profiter et de voir nos enfants tous les jours.
Exactement, et ça c'est quand même assez merveilleux, et franchement d'imaginer qu'elle va être à vos côtés, effectivement, à préparer les croissants, on trouve ça très sympathique. Romain, elle est où la boulangerie, redites-nous?
À Saint-Pierre-et-Lise.
Oui, comment elle s'appelle?
Non, la boulangerie La Madeleine.
La Madeleine. Allez, on va voir Romain à La Madeleine et on va lui acheter les croissants et les pâtisseries pour le week-end. Romain, Rico, Stéphane, merci de nous avoir fait voyager en France. On le sent bien, effectivement. Il y a quand même un certain nombre de commerçants.
J'aime bien l'idée des temps forts et des temps faibles.
Oui.
Ouais, ça, c'est un bon concept.
Ça pour l'entreprise. Les temps forts, les temps faibles.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Didier Arino, ce matin, bonjour. Vous dirigez le cabinet Pro Tourisme. Alors, on a entendu les économistes qui disaient c'est une catastrophe, cette France à l'arrêt, dans un moment où on a besoin de remplir les caisses de l'État, ça va coûter 1,5 milliard d'euros. Voilà ce que nous dit l'INSEE, cette France à l'arrêt à partir de ce soir. Sauf que vous, votre parti pris, Didier Arino, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour tout un secteur de l'économie.
C'est une excellente nouvelle pour tout un secteur de l'économie. C'est près de 2 millions
de Français qui travaillent directement dans le secteur du tourisme. C'est 6 millions si on prend les emplois indirects et induits. C'est près de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un solde de plus de 10 milliards d'euros de la balance des paiements. Donc, en résumé, le secteur du tourisme est une économie majeure pour notre pays qui permet aussi l'équilibre de nos territoires. Sans le complément de l'activité touristique, nous aurions une désertification de bon nombre de nos provinces, et notamment à la campagne, à la montagne et dans les espaces balnéaires. Et si, dans les années 60, il y a eu une volonté d'aménager notre pays comme une destination touristique avec le plan Racine, toutes les stations que l'on a en Languedoc-Roussillon ont été créées artificiellement, que ce soit Gruissant, la Grande Motte, Port-le-Cat, l'aménagement de la montagne qui fait de nous une destination majeure en tourisme de montagne et notamment pour le ski. Donc on voit bien que ce secteur, il est fondamental, sans oublier le moral de nos concitoyens. Dans un contexte anxiogène, les Français ont besoin de ces vacances, de ces breaks. Ça fait faire des économies à la sécurité sociale. Ça évite alors, de consommer
J'avais pas pensé que vous iriez jusque-là, Didier Rinaud, dans l'idée que c'était très bon pour l'économie française et qu'effectivement, ça faisait faire des économies à la sécu. Didier Rinaud, quel est le pourcentage de remplissage à la fois, j'allais dire, auberges, hôtels, chambres d'hôtes, mais aussi camping et restauration? Ils affichent effectivement plein, là, pour tout le week-end?
Alors, pas totalement plein pour le pont, ou plutôt le viaduc du 8 mai, mais on a beaucoup de retard, puisque le 1er mai, du fait d'une météorologie médiocre, les taux de remplissage étaient relativement faibles dans notre pays. On est à moins 10% sur les vacances de Pâques, et on a besoin véritablement de lancer la saison avec ces grands ponts du mois de mai qui démarrent véritablement ce soir. Aujourd'hui, on est aux alentours de 70% de taux de remplissage pour nos hébergements touristiques, mais nous avons besoin de ce mois de mai.
Quels sont les secteurs qui souffrent encore un peu? C'est-à-dire que là, vous dites que c'est quand même un vrai booster pour tout le milieu du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie. Quels sont les points sur lesquels aujourd'hui c'est le plus difficile?
Alors notamment, alors l'espace qui est en difficulté en ce moment, c'est le balnéaire, parce que la météorologie était tellement médiocre que les restaurateurs n'ont pas fait le plein, les hébergeurs se retrouvent avec du retard par rapport aux années précédentes, mais on a aussi véritablement un besoin d'activité dans nos zones rurales, même si certains d'ailleurs tirent leur épingle du jeu, et notamment les locations de meublés qui sont plutôt bien réservées cette année, comme le montre Gîtes de France. Mais on a véritablement, pour ceux qui sont des gros pourvoyeurs d'emplois, besoin d'une belle activité. Il ne faut pas oublier qu'un village de vacances comme Cap-France, c'est près de 100 emplois. Le Club Med, c'est 600 emplois entre les emplois directs et indirects d'un Club Med à la montagne. Donc, c'est véritablement une économie majeure pour le bon nombre de territoires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait du tourisme. On ne fait pas seulement du tourisme parce qu'on aime les touristes, on fait du tourisme pour vivre au pays, pour avoir des retombées économiques, sociales dans nos territoires, et puis pour pouvoir faire vivre aussi, via les circuits courts, nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos ostréiculteurs.
Et on l'entendait d'ailleurs avec tout à l'heure le chef, le patron de l'auberge du Berger à la Mongie, qui va accueillir tout à l'heure le chef de l'État et le président chinois, qui nous parlait justement du fait qu'il travaillait avec des producteurs locaux, donc les restaurants, c'est aussi ça. Didier Rinaud, est-ce qu'on a un petit recul sur le week-end passé? C'était pas vraiment un pont, les gens se sont plutôt concentrés sur ce pont-ci qui vient, le viaduc, comme vous dites, mais autour du 1er mai, est-ce qu'on a un premier retour?
Oui, c'est un retour qui est décevant, puisqu'on est à moins 10 points par rapport à l'an passé. D'ailleurs, vous évoquiez Éric Abadie, le berger qui va faire le repas à l'étape du berger au Tourmalet. Ben, il est véritablement l'emblème de l'importance du secteur du tourisme. Lui, il était berger. Son activité au départ, c'est berger. Et c'est l'activité touristique qui lui permet non seulement de mettre à l'honneur ses produits en devenant restaurateur, d'éviter de passer par des intermédiaires. Là, on est véritablement dans le circuit court où il vend l'agneau qu'il élevait. Et donc, véritablement, c'est un bon exemple. Et quand on voit dans ces vallées pyrénéennes, c'est le secteur du tourisme qui permet d'avoir de formidables produits et pas des produits aseptisés avec de vraies appellations comme le porc noir de Bigorre. On le voit aussi dans bon nombre de nos territoires où les circuits directs sont fondamentaux. Je pense notamment dans les Corbières avec la vente directe au caveau. Je pense aussi à l'importance du secteur du tourisme. Quand on prend une station comme Bagnoles de l'Orne en Normandie, c'est un îlot d'activités
et qui permet de rayonner,
création d'emplois
et qui permet effectivement à ces territoires de rayonner. Merci en tout cas d'avoir défendu avec vigueur votre parti pris, Didier Arinaud, ce matin. Vous dirigez le cabinet pro-tourisme et on l'a compris, pour vous, ce grand pont du 8 mai et de l'Ascension, c'est une chance pour la France. Vous avez parlé du port de Bigorre. J'ajoute qu'il nous a parlé aussi de l'agneau confit, hein, oui, tout à l'heure, le Eric Abadie. Il est 8h18.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour à tous.
Arnaud de Manche, Arnaud avec nous. Salut Arnaud.
Alors c'est tous les jours de manche, mais ce soir ça n'est pas moi. Ce soir c'est PSG. C'est PSG. Paris joue pour une place en finale de Ligue des Champions pour Charles Magnin. C'est la journée de toute l'année. Charles, il répète depuis une semaine comment chambrer les supporters allemands qui seront à côté de lui. Je le vois dans les couloirs, il a son casque sur les oreilles avec Duolingo, il s'entraîne. Dortmund, du hast es im Arsch. Ce qui veut dire, Dortmund, tu es en train de vivre un dépistage des maladies colorectales. Je l'ai fait poli parce que sinon... Ou encore, ou encore, Deutsche, das einzige Gras, das ihr im Final sehen werdet, sind die Beine Haare eure Mutter. Ce qui veut dire, les Allemands, la seule pelouse que vous verrez le jour de la finale, c'est les poils de jambes de vos mères.
Mais non,
mais pas mal, celle-là. Elle est sympa.
Et avec,
et
avec un avec très bon
avec l'accent,
accent.
L'accent. Oui. J'ai fait allemand deuxième langue, j'ai eu 18 au bac. Et puis bien sûr, bitte meine Herren, gib mir meine Hose zurück. S'il vous plaît, messieurs, j'avais rendez-moi mon pantalon. Des fois que ça tourne mal, on sait jamais.
Possible aussi, ouais.
Ça peut mal tourner. À part ça, Apolline, vous receviez hier Marine Le Pen, qui a déclaré sur votre antenne « Je ne suis pas raciste ». Et sur CNews, ils ont tous fait « Ah bon ? Mais pourquoi on vote pour elle ?» Alors, ils étaient dégoûtés. Et vous l'avez mise en face d'une de ses grosses contradictions. Elle se dit pour l'Ukraine, mais elle met Thierry Mariani sur sa liste pour les européennes. Alors Thierry Mariani, on ne sait pas forcément qui c'est un député pro-russe qui a même été surveillé par la DGSI, nos renseignements intérieurs. Il le soupçonne d'être un relais du Kremlin. Thierry Mariani, voilà, il aime bien Poutine. Il aime bien aller en Russie, il écrit à Vladimir le soir, « Bonne nuit Bibou, tu m'as trop manqué aujourd'hui ». Il répond à ses stories avec des petits smileys qui ont des cœurs dans les yeux. Il envoie des nudes. Oh, « Bibou, comment tu me trouves avec le nouveau slip que tu m'as offert ?» C'est courant dans les couples, voilà, quand on offre de la lingerie, tu fais des petites photos chaleur-chaleur, ça fait plaisir. Et ben hier, Marine, crac, je suis pour l'Ukraine. Mariani, il a dû paniquer. Il a dû, je t'assure, Bibou, je sais pas ce qu'il lui prend. Me dis pas que c'est pour ça que tu m'as offert des slips. Parce que là, il doit les passer au compteur Gégère pour vérifier qu'ils sont pas au plutonium et radioactifs. Comme ceux de Navalny, il s'est fait empoisonner comme ça par Poutine. Alors, à propos de femmes de droite, Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, est sortie du silence hier suite à cet horrible attentat aux œufs dont a été victime son homme.
Le fameux.
Car une femme a jeté un œuf sur Éric Zemmour ce week-end. Éric Zemmour devait-il frapper cette femme en retour ? Réponse de Sarah Knafo.
La légitime défense, c'est la loi. Et je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on a le droit de réagir que quand on est mort.
On est mort après un jet d'œuf.
On
peut mourir. Voilà, un œuf peut vous tuer. Non mais, c'est bien la peine d'interdire les armes à feu dans ce pays si c'est pour laisser les œufs en vente libre. À un moment, je suis désolé. Macron, il va appeler Zelensky. Bonne nouvelle pour l'Ukraine, Volodymyr. On va vous livrer des œufs. Vous les lancez très fort sur les tanks russes et la victoire ne sera plus loin. Alors après son attentat à l'œuf, Éric Zemmour a été pris en charge par son garde du corps qui a dit « Monsieur Zemmour, vous voulez qu'on appelle les poulets ?» Non. On commence par jeter des œufs et après on va battre les blancs. Voilà. Alors on a l'enregistrement. Bah oui.
Okay.
Bah oui. Okay. Alors on a l'enregistrement de la suite de l'altercation.
À moi, arrêtez-le, attrapez-le. C'est un voyou qui veut m'assassiner. Au cachot.
Oui, mais calme-toi, Eric, quand même. Ça n'est qu'un œuf.
Au cachot.
La
tête de liste LFI, Manon Aubry, a publié sur ses réseaux une affiche intitulée « Ces députés qui s'en mettent plein les poches, en plus de leur indemnité d'élu ».
Oui, alors c'est un visuel avec des visages et des sommes. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des droits d'auteur. En fait, elle entretient l'amalgame entre la corruption et les revenus annexes. Mmh. C'est très populiste et pas très précis. Par contre, on peut lire que François-Xavier Bellamy, il gagne entre 12 000 et 66 000 euros par an. C'est quand même la grosse fourchette, ah ouais. quoi. Soit il roule en berline de luxe allemande, soit en Kangoo d'occasion. Quelle honte. C'est archi démago. Elle est à deux doigts de faire des visuels. Tous les soirs, Raphaël Glucksmann dort dans un lit. Valérie Ayé mange trois fois par jour. Marie Toussaint possède 32 dents et blanche. Alors que chez nous, Jean-Luc Mélenchon, il en a que 29 et elles sont jaunes. Comme vous, le peuple, on est avec vous. En tout cas, Manon Aubry, elle, elle a 0 euros. Voilà. Poum, éligible au RSA. Son slogan, ça va être quoi ? Je suis nul pour gagner de l'argent, votez pour moi. Je m'occuperai des finances de l'Europe. Eh ben, c'est pas très convaincant. Même en vendant tes vieilles fringues sur Vinted, Manon, tu peux te faire 50 balles par mois. Alors bon, on sait qu'elle vend pas ses vieux vêtements, hein. Visiblement, elle les porte. Mais quand même, il y a des astuces à trouver.
Et puis Bernard Pivot nous a quitté, Arnaud.
Oui, dites donc, entre la mort de Bernard Pivot, la fin des chiffres et des lettres, moi, je serais Michel Drucker, j'irai faire un petit check-up. On sait jamais. Donc... Oui, mais on l'embrasse. Donc, l'écrivain et animateur bien connu est décédé. Alors, soit il a très mal supporté l'arrêt des chiffres et des lettres, soit il a eu une rupture d'anévrisme en essayant de déchiffrer les textes d'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture. La France pleure donc un homme qui lui a fait faire des dictées. C'est quand même le truc que tout le monde déteste. Et on l'aimait bien quand même. Pourtant, c'est comme si on pleurait la disparition d'un contrôleur fiscal. Et vous avez vu qu'on arrête les chiffres et des lettres, j'en parlais à l'instant. Heureusement, pour remplacer, notre direction a pensé à lancer un jeu dont on a déjà parlé, le Chypre et des lettres. Le retour.
Bien ça.
Bonjour, bienvenue dans le Chypre et des lettres, avec deux invités aujourd'hui, Kevin Le Chypre et Éric Zemmour. On en était aux voyelles, je crois qu'on en avait trois. Kevin.
Arrêtez de me jeter des « e », je peux mourir. On peut mourir à cause des « e ».
Au cachou, au cachou, au cachou.
Portez-moi sur les coussins. Bon allez, bonne journée. Vous vous souvenez du film, quand même.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h39.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à tout à l'heure.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Bonjour Yann Moix.
Bonjour Apolline.
Merci d'avoir accepté, ça va bien, ça va bien. On va voir si vous, ça va bien aussi, parce que vous publiez donc ce petit livre, on va y revenir, ce petit livre qui s'appelle Visa, un livre étrange, une sorte d'objet non identifié où vous racontez un dialogue semi-imaginaire avec un agent de la Corée du Nord. La Corée du Nord, on n'en a jamais autant parlé qu'à cause de vous, ou avec vous, ou grâce à vous. Ces images qui sont ressorties, ces images qui avaient été tirées d'un film, vous allez nous raconter dans quel contexte, qui ont entraîné à nouveau un épisode du terrible feuilleton Gérard Depardieu. Mais je voudrais d'abord, Yann Moix, on va parler de liberté, on va parler de violence, on va parler de cinéma, on va parler d'antisémitisme aussi, mais donner la parole à Bernard Pivot que vous avez bien connu, qui est mort hier et qui a souvent parlé de vous aussi, Yann Moix. Et j'ai retrouvé ces mots, il dit « Je pense que Yann Moix a un très grand talent, un talent immense, mais il a un talent immodéré de la contestation, de la provocation, des sunlight. C'est un écrivain surdoué, mais si je peux lui donner un conseil, et je peux, car je suis plus âgée que lui, ce serait de se couper des médias, de rentrer chez lui, de rentrer à l'intérieur de lui-même, dans la paix, dans le silence, pour écrire les grands livres qu'il porte en lui, et peut-être avoir le Goncourt comme il le souhaite. » Au fond, j'aurais peut-être pas dû lire ça, parce que je me demande un peu du coup ce que vous faites là.
Non, au contraire, je travaille énormément dans la paix et l'intériorité de mon être. Je lis énormément. Et c'est d'ailleurs les deux occupations principales de mon existence. Et je trouve parfaitement normal qu'un écrivain, comme ça a toujours été le cas chez Rapoline, toujours, prenne la parole. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dans les médias audio et télévisés. À l'époque de Gide et de Camus, c'était essentiellement dans la presse écrite. Mais il est parfaitement normal qu'un écrivain s'engage, dise ce qu'il pense, pour une raison simple. C'est que les journalistes ont une façon de voir les choses, qui est d'ailleurs très utile pour les écrivains, mais pas que. Et les écrivains ont une manière différente d'appréhender l'actualité par un prisme qui est le leur. Et je crois que les deux se complètent, parce que l'actualité est tellement complexe que c'est bien que les écrivains...
C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin avec votre regard sur notre époque. Puisqu'on parlait de Bernard Pivot, est-ce qu'il fait partie aussi pour vous de ceux qui vous ont fait aimer les livres ou vous permettent aussi de parler des livres au plus grand nombre?
Ah, Bernard Pivot m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petit. Et c'est son émission qui m'a donné envie d'être écrivain. Parce que ce n'est pas lui personnellement, c'est les gens qui l'invitaient. J'ai vu pour la première fois de ma vie Nabokov quand j'avais 8 ans à apostrophe. Et Nabokov, pour moi, c'était un personnage inoubliable. Je me souviens très bien de la fois où j'ai vu aussi Bukowski. Je me souviens très bien la fois où j'ai vu Solzhenitsyn. Alors avec un peu plus de... quelques années plus tard, mais il y avait beaucoup de rediffusions. Et Bernard Pivot avait toujours l'intelligence de mélanger des écrivains français avec des grands écrivains internationaux, et donc c'était pas du tout une vision franchouillarde de la littérature. Pivot m'a fait comprendre que la littérature n'était pas simplement des gens qui racontaient des histoires, mais des gens qui avaient quelque chose à dire sur l'être humain. C'est une vraie perte parce que c'est quelqu'un d'à la fois très populaire, très simple, mais aussi quelqu'un d'extrêmement profond et de très intelligent, et qui aimait le foot, le vin et la littérature, pas les livres. La littérature, les livres, ça n'a aucune importance. C'est la littérature qui compte. Et des grands écrivains, il y en a 4-5 par décennie. Et Pivot ne les a jamais ratés, ceux-là.
Il ne les a jamais ratés. Yann Wax, vous publiez ce petit livre étrange, ça s'appelle Visa. C'est une sorte de pièce de théâtre, de dialogue entre vous, que vous décrivez, vous vous auto-décrivez comme un indécrottable petit bourgeois parisien, et face à vous, un agent administratif de la Corée du Nord. Je voudrais quand même comprendre votre fascination, assez sordide quand même, pour la Corée du Nord, et ensuite l'idée même d'emmener un Gérard Depardieu en Corée du Nord.
Alors, je ne vous permets pas de dire que la fascination est sordide pour une raison très simple, Apolline. C'est un pays extrêmement mal connu. C'est un ailleurs.
Bah de fait, il est mal connu parce qu'on ne peut pas y rentrer. Sauf après un si long dialogue.
J'y suis allé 4 fois, on peut donc y rentrer. Si vous voulez, c'est un ailleurs. Dans un monde où tous les pays se photocopient les uns les autres. Dans un monde où chaque aéroport est le jumeau de l'aéroport précédent. Vous allez à Manaus, c'est exactement le même aéroport qu'à Londres ou à New York. La Corée du Nord est un ailleurs. Et j'aimerais aussi vous préciser que dans cet ailleurs, contrairement à ce que les gens s'imaginent, il y a des gens qui habitent. Il y a une population en Corée du Nord. Il y a des citoyens nord-coréens. Il y a des habitants des villes nord-coréennes. Et bien sûr que vous ne pouvez pas aller en Corée du Nord, que vous soyez journaliste ou écrivain, sans que le régime vous y autorise. Donc, bien sûr
vous y autorise et vous y surveille.
Bien
vous
sûr.
Vous y accompagne dans chaque mouvement.
Vous avez deux guides en Corée du Nord qui se surveillent l'un l'autre et qui vous surveillent. C'est comme la Russie ou l'URSS des années 60 ou 50. Et c'est un pays qu'il est extrêmement difficile de comprendre à travers la littérature qui y est consacrée. Pour comprendre ce pays, comme disait Hemingway, il faut aller voir, il faut y aller physiquement. Et c'est pas le seul pays étrange qui m'intéresse. J'adore voyager. Je suis allé en Syrie, je suis allé en Albanie, je suis allé en Corée du Nord. Mais d'abord, c'est la culture coréenne dans son ensemble qui m'intéresse. Et je m'aperçois que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont beaucoup de points communs. Donc, connaissant bien la Corée du Sud, je voulais connaître le Nord.
Et vous avez curiosité donc été connaître le Nord.
Mais ce n'est pas plus sordide qu'autre chose, c'est un voyage.
C'est un voyage. Alors, vous parlez de cette population, on se dit quand même qu'elle souffre, cette population, et vous en parlez presque comme si vous alliez regarder un tableau.
Pas du tout, d'ailleurs, je parle de la souffrance de la population. C'est un pays extrêmement douloureux, qui a une histoire douloureuse, qui a hérité sa violence de l'occupation japonaise. C'est un pays, la Corée a été occupée pendant 40 ans par les Japonais. Vous imaginez si les Allemands nous avaient occupés pendant 40 ans, le traumatisme que ça laisse. C'est un pays passionnant, et si on veut comprendre aussi la Chine, c'est intéressant de comprendre la Corée du Nord, parce que la Chine fait souvent faire le sale travail par la Corée du Nord. Et ça sert d'état tampon, la Corée du Nord, entre l'Occident, les États-Unis, parce que les Américains sont encore en Corée du Sud, et la Chine. Donc la Corée, Sud et Nord, C'est extrêmement intéressant.
Yann Moix, que vous avez emmené Gérard Depardieu en Corée pour y réaliser un film. Des images de ce film ont été publiées, montrées par l'émission Complément d'enquête. Depuis, vous avez même porté plainte contre eux. A-t-il, Gérard Depardieu, oui ou non, prononcé les mots assez infâmes qu'on a entendus?
Alors, d'abord, ce n'est pas des images de mon film, c'est des images volées d'un film qui ont été diffusées. C'est-à-dire que le producteur m'a volé un film qui s'appelle 70, qu'une centaine de personnes ont vu, dont certains de vos confrères et consoeurs, du Monde notamment. Ce film fait 2h30, c'est un film burlesque tourné en Corée du Nord. Alors après, on peut s'interroger sur le bien fondé de faire un film burlesque en Corée du Nord.
Mais avec Gérard Depardieu
tout simplement, avec n'importe qui. Gérard Depardieu, quand je suis allé en Corée du Nord en 2018, avait eu une plainte qui n'avait pas été jugée.
Depuis, il y a deux plaintes.